Littérature Audio a le plaisir de vous présenter Le Maître à aimer, une comédie en un acte de Pierre Weber, représentée pour la première fois sur le théâtre de l'Odéon le 30 mai 1907. Les personnages: le président Bonfant, la présidente sa femme, Lisette leur femme de chambre, Lindor, jeune homme, De Pelfrène, son oncle, le marquis de Courvalin, le maître à aimer. Le maître à aimer. Un salon Louis XVI. Au lever du rideau, la scène est vide. On entend le bruit d'une discussion et l'on voit apparaître, par l'entrée de droite, Monsieur de Pelfrène, vieux monsieur propret, tirant par la main le très jeune Lindor. Scène première. De Pelfrène, Lindor, Lisette.
Viendrez-vous à la fin ?
Lindor se débattant.
Mon oncle, je vous prie.
Je veux que vous veniez. C'est une duperie que s'occuper de vous.
Par grâce.
Peste soit du sauvage, venez ici.
Chacun pour soi, je veux m'en retourner au pays.
Que je meure si vous demeurez séant pendant une heure. Vous agissez en sot, encore qu'intelligent. On m'a loti d'un bel office en me chargeant de vous lancer dans les salons, que la famille, en obligation ridicule, fourmille.
Je n'ai rien demandé.
Mais votre père veut, et je m'y emploierai sans trêve, mon neveu, que vous fassiez figure en cette capitale. Quand Paris s'offre à vous, votre valeur détale. Ce dimanche dernier, suant et m'empressant, je vous ai fait quitter votre pays bressant. Mais Paris vous fait peur. Vous avez tout pour plaire. Agréable visage et tournure exemplaire. Un beau nom, de l'argent, cher gage de succès. Que vous faut-il de plus ?
Mon oncle, je ne sais pas où mettre mes mains.
Mettez-les dans vos poches. Écoutez, la maison prospère et sans reproche où je vous traîne, c'est un paradis charmant. La fortune et la gloire y viennent en dormant, mais vous y dormirez plus tard.
Ainsi nous sommes.
Chez le plus généreux et le meilleur des hommes, chez notre vieil ami le président Bonfant.
J'aime mieux m'en aller.
Mais on vous le défend. Pénétrez-vous plutôt d'un orgueil légitime, car en vous agréant, il vous marque une estime que plus d'un envierait. Le meilleur des maris reçoit dans ses salons les maîtres de Paris, les hommes les mieux nés, les femmes les plus belles. Et contre un tel honneur, Nigo, tu te rebelles.
J'aime mieux m'en aller.
Oh, le damné garçon, qui refuse l'obstacle et qui vide l'arçon.
Grand Dieu, mon oncle. Là.
Qu'est-ce ?
Une créature vient à nous avec un plateau. Quelle aventure, sauf qui peut.
Capon, c'est Lisette. C'est la servante des Bonfants. Le ciel l'a mise là pour nous annoncer. Lisette, ton bon maître, est-il visible ?
Lisette entrant.
Qui sont ces gens ?
Monsieur, peut-être, je ne sais pas. Ce soir, il a les violons.
Entendez-vous ? Il a les violons.
Allons nous coucher.
Lisette, à part, regardant Pelfrène.
Il n'a pas une mine sereine. Qui faut-il annoncer ?
Qui ? Monsieur de Pelfrène, venant de Bourg-en-Bresse, et son neveu Lindor.
Lisette, à part, regardant Lindor.
Les beaux grands yeux craintifs, les souples cheveux d'or.
Lindor se sauvant et laissant son habit aux mains de Pelfrène.
Bonsoir, mon oncle.
De Pelfrène le poursuivant.
Oh, le bandit ! Ça ! Qu'on l'arrête !
Il sort à la poursuite de Lindor et heurte Courvalin qui entrait.
Serviteur, monsieur ! Arrêtez !
Scène 2. Lisette, Courvalin.
Vieille bête, il a dérangé mon désordre, ce rustaud !
Gentilhomme, en province. Il descendit, tantôt, du coche. Le neveu, n'est-ce pas, a l'air tendre. Ils sont de Bresse.
Ça se voit, on eût pu prendre, avant d'admettre ici ces fâcheux mon avis, pour un peu je fuirais la maison où je vis parmi la lassitude.
Y pensez-vous? Madame ferait de beaux cris.
Eh, tu lui dirais, bonne âme, qu'un malaise m'a pris.
Elle n'en croirait rien et se désolerait.
Mais je l'espère bien.
Donc vous voulez la désoler?
Je ne sais guère ce que je veux, et depuis peu je suis en guerre contre des sentiments que l'honneur me défend. Sitôt venu, je veux partir. Ah, mon enfant, alors qu'on n'aime plus, quelle sotte corvée que l'amour! On retrouve en son âme éprouvée juste assez de pitié pour mentir mal. On a trop d'amour-propre pour être cruel.
Oh là, ne soyez pas cruel aujourd'hui. Ma maîtresse brûle de vous revoir. Et malgré sa tendresse, son époux a grand mal à calmer ses esprits. Votre retard la met hors d'elle.
J'ai compris, mais faut-il pas qu'on vous désire, humble pécor?
Le mari, je crois bien, vous attend plus encore.
Que ce navrant cocu me donne de soucis, je me retire.
Trop tard, monsieur, le voici.
Scène 3. Les mêmes, Bonfant.
Enfin, marquis.
Mon cher président.
Préviens vite ta maîtresse.
Je suis confus. Lisette, évite de la déranger.
Va, Lisette. Ah, ça, marquis, vous qui fûtes toujours un talon rouge exquis et plein d'attention, il faut que, comme un père, je vous rappelle à vos devoirs. Ma femme espère après vous depuis une heure.
J'étais au jeu.
Vous jouiez, c'est plaisant. Vous jouiez, sarpe-jeu. Comme de ses devoirs un amoureux s'allège. Quand vous prîtes, sans mon aveu, mon privilège, vous ne prétendiez pas, me laissant seulement les ennuis d'un état, en avoir l'agrément. Trompé soit, mais je veux la paix. La présidente m'infligea les effets d'une colère ardente. Bien que n'étant pour rien dans ce fâcheux émoi, son courroux, votre ouvrage, est retombé sur moi. Il a même pris fin. Injustice infinie. Trop tard pour que je puisse ouïr la symphonie. Marie, vous le serez, mon cher marquis, un jour.
Dieu m'en garde.
Mais si, tout arrive à son tour. De l'amour, Dieu vengeur, la volonté suprême, fera que vous serez trompé comme moi-même. Alors vous comprendrez qu'un cœur débilité n'a plus qu'un but, un seul, c'est sa tranquillité. Et lorsque vos lauriers, gais moissonneurs de palmes, seront coupés, c'est vers les digestions calmes que tendront vos efforts. Excusez-moi si j'ai trop de franchise, vous êtes mon obligé. Si vous manquez à vos devoirs, je dois en somme chercher pour me tromper un autre gentilhomme.
Pénétré de mes torts, je m'excuse.
Merci. Pourtant, il faut encore me tirer de soucis. Tout franc, vous n'aimez plus autant la présidente.
Où prenez-vous cela?
La chose est évidente. De droit, je suis, comment dirais-je, un regardeur. J'observe et je constate, hélas, que votre ardeur, quoi que vous en ayez, chaque jour diminue.
Vous vous égarez.
Point de défense ingénue, le plaisir du mari, c'est d'observer l'amant. Or, je suis les progrès du désenchantement. Trop de bonheur fatigue et trop de bonté lasse. Votre assiduité s'émousse, ô Lovelace. Ne vous ai-je point vu, durant des mois entiers, venir dès mon départ? J'entrais quand vous partiez. Bref, sans faire sur vous une enquête plus ample, courtoisement, je vous citais comme un exemple. À mes confrères, les maris, et grâce à vous, tous nos amis de votre maîtresse étaient fous. Vous étiez imprévu, bouffon, profond peut-être. Vous parliez en esclave et dominiez en maître. J'avais à vous ouïr plus d'agrément encore que notre présidente, et nous vivions d'accord. Rien ne vous plaisait plus que moi-même, après elle. Ces temps-là sont lointains et vous manquez de zèle. Vous venez tard, vous partez tôt, vous paraissez glacé, fané, jamais plus de soins empressés. Prenez garde, je dois vous parler franc, mon maître. J'aime la présidente et veux bien vous permettre d'offrir à ses désirs des baisers triomphants. Mais faire son malheur, ça je vous le défends.
Vous m'accablez.
D'ailleurs, la voici qui s'approche en ruminant pour vous, je crois, plus d'un reproche.
Scène 4. Les mêmes, la présidente. La présidente à Courvalin.
Est-ce donc à vos yeux, monastre, ce voilà que vous me délaissez ainsi ?
Nous y voilà.
Je ne vous ai point vu de toute la journée.
Mais, madame...
Chacun me croit abandonné au point qu'on s'autorise à me faire la cour.
Qui s'est permis ?
Bravo, la jalousie accourt à la rescousse, pauvre amant.
Quel téméraire ose prétendre à la faveur de vous distraire de vos devoirs ?
Bonfant se frottant les mains.
Fort bien.
Enfin, qui s'est permis ?
Ne le répétez pas, c'est Germeuil le commis. Il vous trouve moins gai, d'allure moins légère que l'an passé.
Vraiment ?
Ce commis exagère.
Enfin, il tient sur vous des propos médisants, que vous vous accoutrez comme il y a 10 ans, ayant le teint jauni des très vieilles estampes, et que l'on voit soudain s'étoiler sur vos tempes la patte d'oie.
Il ment.
Parbleu !
Qui superflu ! Les bourgeoises, dit-il, de vous ne veulent plus.
Faquin !
Vit-on jamais perversité pareille ?
Pleutre insolent, je vas te couper une oreille. Ah, je suis un bellâtre éconduit, tu verras.
Fausse sortie.
Non, la suite commence. Offrez-moi votre bras. Vous ne me quitterez de toute la soirée. Il faut me reconduire à ma place.
Courvalin sortant avec elle.
Adorée, je suis, vous le savez, tout à vous pour toujours, et mon amour est le plus constant des amours.
Ils sortent. Scène 5. Bonfant, puis Monsieur de Pelfrène. Bonfant, seul.
Ô stupide Marie, Marie de répertoire, bramant comme des cerfs et faisant des histoires, Othello, tyrannique ou dandin vagissant, vous qui vouliez laver vos cornes dans le sang, Jocrisse en péplum, Ménélas en savate, que vous fûtes de pauvres gens. Vous vous privâtes d'un spectacle inouï, c'est la société, c'est l'ennui, chaque jour à plaisir augmenté, de ceux qui vous avaient outragé. Sganarelle, la voilà, la vengeance exquise et naturelle.
De Pelfrène, entrant essoufflé, à la cantonade.
Gardez-le bien, qu'il ne s'échappe de nouveau.
Quoi, Pelfrène, excellent ami, mais qui me vaut ? Viens-tu donc du Beloutchistan ?
Non, de la Bresse.
C'est plus lointain encore.
Et chez toi je m'empresse d'accourir.
Il y a là-bas de beaux chapons, n'est-ce pas, onctueux succulent ?
J'en réponds, on ne saurait trouver sur terre, où que l'on aille, plus délicat manger et plus tendre volaille. Sans éloge inutile et sans compliment sot, la poularde est bressane et le chapon manceau. Mais à propos, comment va notre présidente ?
Merci pour la propos. Elle va bien.
Contente ?
Très contente.
Depuis 8 ans, je ne l'ai pas revue. Ah, oh, qu'elle avait de grâce et d'appât, toujours charmante.
Oui, pour les autres.
Quelle femme !
On compare la femme aux fruits.
On l'a dit femme.
On a raison. La femme est comme les fruits mûrs qui, les étaient venus, tombent au pied des murs. La femme mûre tombe aisément.
Quoi ? La tienne ?
Suffit, je me comprends. Laissons là cette ancienne. Cher Palfrène, en entrant, à qui donc parlais-tu ?
À mon neveu, Nigaud d'une extrême vertu.
Son âge ?
17 ans. Et Coquebin encore.
À 17 ans, il est encore, mais qu'on le décore. Il n'y a plus d'enfant à 17 ans.
Ma sœur gémit, non sans raison, de le voir possesseur d'une virginité qu'elle perdit plus jeune, et craignant pour l'enfant les excès d'un long jeûne, m'a dit de l'amener, dès le pensionnat, à Paris, afin qu'il s'y décoquebinât.
Bien, cela, c'est agir d'une façon civile.
Et pris en même temps les modes de la ville.
Ton savoir sur ce point me paraît contesté.
Je sens ma gaucherie et mon indignité.
Il risque auprès de toi de retourner en Bresse, gros gens comme devant.
Je le crains, le temps presse. Dans l'inutilité, sa jeunesse s'endort. Il faudrait un malin pour instruire Lindor. Un homme habile, fin, d'allure lutinière avec le sexe. Il lui montrerait la manière d'agir avec audace et pourtant galamment.
J'ai ton affaire.
Qui donc?
Mais parbleu, l'amant de ma femme.
Un amant? Ta femme?
Bon, Pelfren, ne lève pas les bras vers les cieux et refraine l'inutile pudeur de ton étonnement. Monsieur de Courvalin est un marquis charmant, pas trop jeune, agréable, auquel cependant j'ose, l'homme n'est point parfait, reprocher une chose. Avec ma douce femme aux capiteux attraits, il n'est plus tendre autant que je le permettrais.
Quoi? Toi? Parler ainsi?
Ta morale retarde.
Mais ton honneur, bon enfant.
Ami, je ne regarde cet honneur, légendaire à force d'être ancien, de le placer où mon épouse met le sien. Il y serait trop exposé, mais qu'on amène ton chevalier. Avant la fin de la semaine, je veux qu'à la pudeur, il fasse un pied de nez.
Le ciel t'entende.
Au fond.
Hola! Sur le champ, amenez le chevalier.
Lindor paraît. Scène 6. Les mêmes, Lindor.
C'est là l'objet?
Je te présente mon neveu.
Qui n'a point la mine déplaisante.
Lindor, saluez donc le président Bonfant.
Lindor salue en détournant la tête.
Il manque un peu d'usage.
Excusez un enfant.
Cela lui passera. Des leçons, des exemples rendront son air moins gauche et ses gestes plus amples. Bientôt il mentira, jurera, se battra, saura cribler de coups de canif un contrat. Et les fâcheux de coups d'épée. Il saura plaire avant peu, voit déjà si son œil bleu s'éclaire comme les plus roués et comme les plus fous.
On vous porte intérêt, monsieur, entendez-vous? Que de bonté l'on a pour votre humble personne.
Ne l'effarouche pas.
Voyez comme il frissonne d'orgueil.
Je suis ravi, monsieur, de vous compter parmi mes hôtes. Ça, nous allons vous doter d'un guide valeureux que chacun apprécie.
Remerciez.
Monsieur, je vous remercie.
À merveille. Attendez ici le professeur. Il est délicieux, cet enfant de ta sœur. Jurez de ne plus vous sauver.
Je vous le jure.
Scène 7. Lindor seul, puis le marquis.
Mon oncle s'est chargé d'une étrange gageure. J'ai peur, tout seul, très peur. Jamais je ne pourrai répondre aux gens. Dans quel guépier m'a-t-on fourré?
Allant au fond.
Que d'hommes bien vêtus, que de femmes exquises. Ils semblent tout à l'aise, eux, sourient à leur guise. Ils ont bien de la chance, et je mourrais des mois, si l'une se levait et s'approchait de moi. J'ai promis de rester au bon gros monsieur chauve. Mais c'est plus fort que moi, je ne puis. Je me sauve, loin des difficultés d'un destin hasardeux. C'est ça. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 6, 7, 9.
Le marquis entrant.
Pardon.
Quelqu'un. Mon sang se glace.
Avez-vous vu...
Ne pas pouvoir quitter la place.
Le chevalier Lindor?
Oui.
N'est-ce pas vous?
Oui.
Ravi de la rencontre.
Il m'a tout ébloui.
Marquis de Courvalin, vous connaissez peut-être mon nom?
Oui.
Vous semblez un causeur assez piètre.
Oui.
Je vous impose.
Lindor, les mains jointes sur sa poitrine et tournant les pouces.
Oui.
Mon petit chevalier, demeurez sans souci. Je veux vous délier et la langue et les mains. modèle des novices, pour de folles vertus et d'estimables vices que seuls les gens de peu négligent, qu'ils ont tort. Je vais être séant votre prudent mentor, ne le savez-vous pas ?
Si, monsieur.
Dans le monde, je guiderai vos pas sans perdre une seconde. Le président le veut. Quant à vous, vous devrez, quittant cet air contrit et ces regards navrés, sembler partout à l'aise et parler sans contrainte, pour ne rien dire.
Ah !
Certes, et bannissez la crainte. Que je vous initie au grand art de charmer. Je dois être en un mot votre maître à aimer. Le désirez-vous pas ?
Oh, oui, monsieur. Oh oui !
Peste, ce « oui-là » me fait bien augurer pour le reste. Auriez-vous de l'étoffe ?
Hélas, je n'en sais rien.
Il faut vous prévenir que l'on dit peu de bien de votre professeur. Le monde affirme même que sa louche existence est un troublant problème.
On me l'a dit.
Vraiment, on ajouta d'ailleurs que j'abuse un peu trop des instincts batailleurs, que je m'endors à l'heure où le soleil se lève et vis la nuit comme les chats. Bref, cher élève, on vous a retracé mon portrait tel qu'il est, et sans doute avez-vous trouvé cela fort laid.
Monsieur, votre conduite à coup sûr exaspère les craintes de l'époux et les fureurs du père, par les raffinements de votre esprit trompeur. Vous êtes celui dont les familles ont peur, chez lequel les plus fiers amants trouvent un maître, et celui que la femme aime sans le connaître. Pourtant, vous n'aurez pas, j'en jure par mon sang, d'élèves plus dociles et plus reconnaissants.
Bravo, restez ainsi, là, que je me recule.
Il fait quelques pas en arrière et examine son élève.
Bonne tournure.
Oh non, je me sens ridicule.
À 17 ans, un peu d'embarras n'est point laid. Chiffonnez ce jabot, entr'ouvrez ce gilet, mettez dans les cheveux un brin de négligence. Hors des poches les poings. Lorsque l'on a la chance d'avoir de fines mains, on les montre pardi. Regardez, tour à tour, hypocrite ou hardi, les femmes en dessous et les hommes en face. Ayez l'air de penser. Un malin, quoi qu'il fasse, ne vaut pas un rêveur. Évitez les poltrons. Et tout ira des mieux. Bon, cela dit, nous entrons.
Dans le salon, déjà ?
Mais oui, déjà.
Je n'ose.
Pourquoi donc ? Vous voilà redevenu tout chose.
L'emploi de séducteur novice a des appâts. Mais comment s'y prend-on ?
Mais on ne s'y prend pas. Elles vous prennent.
Vous raillez.
Je n'aurai garde. Quand on a 18 ans, quel besoin qu'on regarde les femmes. Il vaut mieux même être indifférent. Vous en verrez venir, jeune homme de tout rang, vous opérez en pleine pâte, en pleine crème. Se laisser désirer, c'est le devoir suprême. Que les dames surtout devinent à vous voir cette fougue instinctive et ce joli savoir d'un quelqu'un qui connaît les formules exactes pour passer promptement des paroles aux actes. Et pourtant se contient, ne daignant pas oser l'entreprise facile et brève du baiser. Les dames oseront pour vous. Il ne vous reste que le soin d'accomplir, pour conclure, le geste, obligatoire, hélas banal, mais triomphant.
Oh, cher maître, elles vont me trouver bien enfant.
Tant mieux, morbleu, tant mieux, que ce défaut te reste, car l'amour de la femme est fait d'un peu d'inceste, et dans chaque maîtresse on trouve une maman. Garde-la, ta jeunesse, ainsi qu'un talisman.
Faire l'enfant, ça n'est pas très malin, en somme.
Pourvu qu'on prouve au bon moment qu'on est un homme.
Compris. Et quelle dame aborder ?
Le marquis, le menant au fond.
Voici les duchesses de Roi des Bas, de Sans-Merci, la comtesse de Frêlez-moi. Je ne vois guère au charme de laquelle il faut faire la guerre. Toutes ont des défauts exquis, des qualités déplorables. Ma foi, chevalier, accostez la première venue, et ce sera la bonne.
Et quoi ? La bonne aussi ?
Non, l'on ne s'en jupone pas de torchons, fuis donc sans canailler, mais on compte sur vous pour ne quitter cette maison qu'après avoir mené rondement quelque intrigue, dépensé de l'amour en cavalier prodigue, où je vous mène au mauvais lieu tout bonnement.
Moi qui sors de chez les pères.
C'est le moment peut-être d'aller chez les filles.
Scène 8. Les mêmes, Lisette.
Toi, Lisette ?
Madame vous réclame, et sur le champ.
Mazette, je suis très demandé. Bien, ma fille, j'y cours. Venez-vous ?
Non, je veux, méditant vos discours, prendre le temps de m'affermir.
À tout à l'heure.
Il sort.
Il s'en va, comme il semble à l'aise.
Je me leurre, mais je voudrais avoir ce petit homme à moi.
Tiens. La fille de chambre. À la bonne heure, ma foi.
Monsieur ne daigne pas utiliser mon zèle ? Je suis tout à lui.
Non, merci, mademoiselle.
On m'appelle Lisette. Ou mon enfant ?
Vraiment, je n'ai besoin de rien, Lisette, en ce moment.
Je prends congé, mais suis tout à votre service.
Adieu.
Non, il est trop gentil.
Elle lui baise les lèvres et se sauve.
Qu'elle a du vice !
Lisette se sauvant.
Ce n'est pas moi.
Quelle a du vice, doux Jésus ! Quelle impudente ! Quel chaud baiser j'en reçus ! Et je n'avais rien dit cependant. La méthode du marquis me paraît simple autant que commode. Rien dire et laisser faire.
Scène 9. Lindor, la présidente.
Auriez-vous par hasard vu ma suivante ?
Elle est par là, mais sans retard. Je puis l'appeler.
D'où sort ce petit bonhomme ?
Comme elle me regarde !
Est-ce pas qu'on vous nomme le chevalier Lindor ?
Oui, je crois.
Ce « je crois » m'affirme que c'est vous. Un larron sur la croix ne soupirerait pas davantage.
Madame, je suis un peu confus.
J'aime cet état d'âme, et la confusion vous sied. « Venez ici vous asseoir près de moi. »«
Tout près de vous. Merci. »
La présidente à Lindor, qui s'assied gauchement.
« Plus près encore. À moins que je ne vous effraie. »
« Oh, non, madame. »«
Non ? Cette réponse est vraie ? » ?»«
Je ne sais pas mentir. »«
Menteur ! Pourquoi ces yeux et ces soupirs lancés lentement vers les cieux ? » Quelle crainte vous tient ? Quel besoin vous affame ? On dirait que jamais vous n'avez vu de femme.
Jamais d'aussi jolie.
Ah, c'est un compliment.
Non, puisque ce n'est pas un mensonge.
S'il ment, c'est un enfant subtil. Un compliment encore.
Vous ai-je fâché ?
Oui, mais notre sexe adore que l'on le fâche ainsi.
« Excusez-moi, je suis si maladroit, je n'ai pas d'usage, et puis... »«
Cela viendra trop tôt. Pour le prochain martyr d'une femme, ou bien de plusieurs, vous saurez dire, comme d'autres, les mots que l'on ne pense pas. Les jolis mots trompeurs que, prononcés tout bas, nous écoutons, hélas, l'œil perdu dans un songe. »«
Même si j'apprenais un jour l'art du mensonge, à vous... » Je ne pourrai jamais mentir, pourtant.
Tiens, c'est assez adroit, ça, pour un débutant. Car, n'est-ce pas, vous débutez ?
Si je débute.
Oui, votre âme ne s'est jamais trouvée en butte à des conflits d'amour ?
Non, jamais, en effet.
Il est délicieux. Jamais vous n'avez fait la cour à quelque dame ?
Oh, non.
Jamais vous n'eûtes de maîtresse ?
Jamais. Pourtant, dans les minutes d'extase où notre esprit s'adonne aux rêves fous, j'ai déjà vu passer, troublante ainsi que vous, la femme étrange et dont l'image se dérobe. Mon cœur serait plus qu'un dessin de sa robe, pensais-je, et celle qui ne s'en douterait pas enchanterait mes yeux à l'heure du trépas.
Il faudrait qu'elle s'en doutât.
Mais la manière.
Prononcez franchement la phrase coutumière. Elle n'a que trois mots. Je vous aime. Et parfois, on abrège en disant « Je t'aime ».
Non, ma voix s'étranglerait.
Candeur touchante. Il faut qu'on l'aide. Eh bien, je vais l'aider. La tâche n'est point laide. Supposons que je sois celle que vous aimez.
Ah oui, supposons-le.
Sur vos esprits charmés, depuis longtemps, je règne en secret, je suppose.
Je sens cela, depuis des mois.
Comme sans pause, vous entrez vite dans le jeu. Donc, vous m'aimez, regrettant...
de garder mes secrets enfermés dans mon âme.
D'accord, vous souffrez de vous taire. Fort bien. Profitez donc de l'instant salutaire où vous me rencontrez seul dans ce salon. La déclaration est simple.
C'est selon. Je devrais cependant, quand ma poitrine étroite, mon cœur éclaterait, trouver la phrase à droite que je terminerai, c'est fort ingénieux, par l'éternel « je t'aime ».
Eh bien ?
Il y a mieux. Lorsque la passion tenace nous affole, qu'un « je t'aime » brutal ou qu'un aveu frivole, si je la rencontrais pour la première fois au milieu du concert des luttes et des hautbois, comme aujourd'hui dans ce salon je vous rencontre, plutôt que de parler et vouloir faire montre d'un langage savant plein de subtilité, humblement je dirais à la dame « Écoutez, le maître en composant ce musical poème a pour tous les amants fait parler l'amour même. Il a divinisé par son verbe puissant ce qu'aucun ne peut dire et que chacun ressent. Écoutez, en cet air à la plainte touchante, c'est le cœur ingénu qui s'agite et qui chante. Un violon soupire, et l'amoureux transi sanglote de ne point savoir gémir ainsi. Et l'âpre volupté qui le tenaille est celle dont vibre éperdument l'âme du violoncelle. Les archers suppliants intercèdent pour moi, ils rythment mon désir, exaltent mon émoi, et comme je n'ai pas de phrase toute prête, charitables amis, ils sont mes interprètes. Nul mieux qu'eux n'aurait pu vous offrir en ce jour la fleur de mon premier, de mon unique amour. »
Il s'incline et baise la main de la présidente.
« Relevez-vous, si l'on entrait. Mais c'est qu'il pleure pour de bon. »
Pouvoir prolonger l'heure, où comme un fruit trop mûr, mon cœur gonflé se fend. Le beau rêve insensé.
Que vous êtes enfant.
Non, j'étais un enfant avant de vous connaître. Un seul regard de vous a changé tout mon être. Je suis un homme à présent. Mais vos cils sont baissés. Muette est votre bouche. Et vous me repoussez. Ne comprenez-vous point ma fervente supplique?
Dieu, que vous êtes prompt. Souffrez que l'on s'explique. Votre indirect aveu mérite sans égal était sincère et n'avait rien d'un madrigal. Et cela m'a touchée.
Oh, madame, madame, vous ne me dites pas cela par bonté d'âme. Vous m'aimez?
Aujourd'hui, non. Peut-être demain, je ne sais. En tout cas, je suis en bon chemin.
Je m'en vais défaillir.
Cela ferait esclandre. Pour la première fois, quand Héro vit Léandre, pour lui donner espoir et pour l'encourager, elle baisa le front du divin étranger. Méprisant à mon tour les attitudes mièvres, sur vos yeux enfiévrés, je veux poser mes lèvres. Je les ai fait pleurer. Ils sont à moi.
Elle lui essuie les yeux avec son mouchoir et baise ses paupières.
Si haut. Quel baiser maternel pudique comme il faut. Mais les lèvres aussi sont à vous.
Fine mouche. Nos lèvres, non. Gardons-les pour la bonne bouche. Mettez une sourdine à vos soupirs mourants. Mais que faites-vous là?
Madame, je vous rends votre mouchoir.
Non pas. Apprenez le langage des salons. Cet objet, je vous le laisse en gage.
L'Indore met le mouchoir dans son sein. Scène 10. Les mêmes, de Pelfrène, Bonfant. De Pelfrène à Bonfant.
Ton sauvage, l'ami, semble s'humaniser. Et qui donc accomplit ce miracle?
Un baiser.
Ma femme?
Que madame est bonne. Je suppose qu'il s'est bien conduit.
Nous en ferons quelque chose.
Je n'ai fait qu'obéir.
Il est délicieux. À bientôt, donc. Je vous laisse avec ces messieurs.
Bonfant, serrant la main de Lindor.
« Jeune homme, permettez que je vous complimente. Il est en bonne voie. »
En son âme clémente, la présidente a bien voulu m'encourager. Mais ça ne prouve rien.
« Nenny, jeune étranger, mon épouse, vertu, qu'en ai-je préfère, est femme de parole. Et quand elle veut faire de quelqu'un quelque chose, elle le fait. J'en sais la preuve. Bravo, donc, pour vos heureux essais. Votre gloire partout, demain, soit célébrée. Allons, Pelfren, viens faire une bête ombrée. »«
Volontiers. »«
Jouez-vous, chevalier ?»«
Non, hélas. »
Oui, que font Argine et Judith et Pala? Bicéphale, Dondon et toutes leurs séquelles. Plus tard, vous y viendrez. Moi, je n'aime plus qu'elle.
Il joue. Lindor, son mouchoir sur les lèvres.
Elle m'aime. J'en vais. Je crois devenir fou.
Scène 11. Bonfant, de Pelfren, Lindor, le marquis.
Quoi? Vous êtes encore ici, bon naïf, ou vous perdez votre temps?
Je ne crois pas.
Je guette votre venue en ce salon pour la conquête initiale dont votre avenir dépend. Vous me semblez bien engourdi, jeune serpent.
Je me suis occupé.
Quoi, déjà? Quelques belles?
De toutes, la plus belle.
Oui, toujours on appelle ainsi celle qu'on aime. Alors, vous lui avez parlé?
Je lui ai fait, prince des dépravés, une cour absolue.
En suivant à la lettre mes instructions.
Oh, pouvais-je me permettre de les enfreindre un seul instant, cher professeur? Que du cœur féminin vous êtes connaisseur.
C'est que les femmes m'ont beaucoup connu. Vous n'êtes pas mécontent du résultat, et vos sornettes et vos soupirs ont eu le succès mérité.
J'aurais tort de me plaindre, ô maître, en vérité.
Voilà qui va des mieux.
Vous n'avez pas idée à quel point mon ardeur fut par la dame aidée. Mais le plus curieux, c'est que tout s'est passé ainsi que vous l'aviez prévu.
C'est l'ABC du métier.
J'en ai l'âme éperdument ravie. Vous m'avez révélé le pourquoi de la vie.
Courvalin, voulez-vous faire une bête?
Non, merci.
Vous avez tort, mon cher. Pelfren est bon à détrousser.
Je suis à ma leçon. J'y pense, cette dame vous a donné pour récompense un engagement sûr, formel et certain.
Comment? Qu'entendez-vous, marquis, par un engagement?
Vous a-t-elle assuré, sans réserve illusoire, qu'elle serait à vous?
Je n'ose pas le croire.
Diable, aucune promesse!
Aucune.
Aucun serment?
Aucun, mais elle m'a parlé sincèrement. Et posa sur mes yeux brillants d'ardente fièvre la douce fleur humide et rose de ses lèvres. Alors, sur le parquet, j'ai cru que j'allais choir, puis elle m'a fait don de ce petit mouchoir.
Il montre le mouchoir. Le marquis prenant le mouchoir.
Il suffit. Ça s'appelle, en termes juridiques, promesse de vente.
Oh, marquis!
Et vous indique que vous devez me faire un aveu plus complet.
Je ne vous comprends pas.
Le doux nom, s'il vous plaît, de la personne?
Oh, non, c'est mal, si je la nomme. Pour qui me prendrez-vous?
Pour son amant, jeune homme.
Mais je ne le suis pas. Si je le suis un jour, personne ne saura l'objet de mon amour.
L'objet de mon amour? Est-il assez romance? C'est Madame Cariste?
Eh non.
La daromance?
Cherchez si vous voulez, je n'en dis pas plus long. Sinon, quel est un point, c'est tout, dans ce salon.
La discrétion nuit, croyez-en votre maître. Cela vous passera, car si vous voulez être ma femme, ici est de bavarder.
Vraiment, mais peu m'importe, car je reste en ce moment l'homme d'une femme, oui, d'une seule.
À votre aise.
Que faire pour la voir?
Il est chaud comme braise.
Assez d'atermoiement, soyez franc du collier. Ce n'est plus la saison de faire les colliers, mais de prouver l'ardeur qu'en vous elle soupçonne. Douceur et violence, attaquez la personne dans un coin. Beau guerrier d'amour, vite à l'assaut. La crainte est pour l'enfant, la honte est pour le sot. Et malgré ses sanglots, ses cris et ses prières, prenez la dame ainsi qu'on prend les chambrières.
Il pousse Lindor dehors.
N'hésitez pas.
J'y cours.
Bonfant à Courvalin en lui désignant de Pelfrène.
Il gagne. Il est pourtant garçon.
Monsieur, la chance est pour vous. Dans l'instant, votre neveu Lindor, je crois bien, s'émancipe.
Se peut-il ?
Je lui ai donné le bon principe. Se montrer violent, même dans la douceur, il s'y applique.
Il a rencontré l'âme, sœur.
L'âme et le reste, ah, quel élève!
Il apprend vite.
Très vite.
Puisqu'il est jeune, qu'il en profite.
Je vous suis obligé de lui ouvrir l'esprit.
Le plaisir est pour moi.
Dites comme il s'y prit, et le nom de la dame?
À moins qu'on ne l'écharpe, il sera sur ce point muet comme une carpe.
Brave enfant.
En ses mains, du moins, elle laissa son mouchoir comme gage. Il est fin.
Voyons ça. Indice précieux pour découvrir la belle. Tenez.
De Pelfrène prenant le mouchoir.
Joli tissu.
C'est ce que l'on appelle des malines. C'est souple et caressant au doigt, comme un duvet de pêche. N'est-il pas vrai? J'en dois deviner le parfum.
Il le prend des mains de Pelfrène et le respire. Bonfant prenant à son tour le mouchoir.
Je crois bien le connaître également.
Ayant touché, puis respiré le mouchoir.
Parbleu! Je suis fixé, cher maître.
Bonfant, je vous en prie, alors dites le nom.
Non, vous ririez trop, mon cher, mille fois non.
Je connais la belle.
Oui.
Son mari.
Sans conteste.
Peut-être bien aussi son amant.
Eh oui.
Peste.
Mais vous le connaissez très imparfaitement.
Lindor trompe à la fois un époux, un amant. Pour sa première chasse, il fait double victime, et cela, grâce à moi.
Quel orgueil!
Légitime. La théorie, la pratique, etc., il me doit tout, enfin.
Mais il s'acquittera.
Je crois qu'il est en train de s'acquitter, le traître.
Qu'entendez-vous par là?
Rien. Mais voici paraître Lisette. Qui a-t-il?
Scène 12. Les mêmes, Lisette. Lisette, rouge et essoufflée, avec une mine scandalisée.
C'est le roi des bandits, ce petit chevalier. Quelle affaire! Tandis que vous parlez, il est là, dans la lingerie. Et pas seul?
De Pelfrène, souriant d'un air de doute.
Non!
Pourquoi voulez-vous que je rie? C'est sérieux, hélas! Entre elle et ce moutard, je voulais de mon corps faire un rempart. Trop tard, il s'était enfermé.
Voici la fin du monde.
J'ai frappé par trois fois, sans que l'on me réponde. Que disait-il? Que criait-il? Dans tous les cas, les voix se répondant faisaient un beau fracas. Jamais je n'entendis de musique pareille. Mais quand, discrètement, j'appliquai mon oreille à la serrure, alors... plus rien. En cet instant, il se fit le silence étrange, inquiétant, qui précède ou qui suit les grandes catastrophes.
Douceur de se compter parmi les philosophes.
Bravo, c'est tout?
Oui, tout ce que je sais. J'accours pour vous conter la chose et demander secours.
Le nom de la personne, ô bonne petite âme?
Vous ne le saviez pas? La dame, c'est madame.
Mordieu, la présidente.
Bonfant, passant après l'avoir respiré, le mouchoir sous le nez du marquis.
Eh oui, j'avais flairé l'intrigue. Et puis après?
Après, je le tuerai.
Vous ai-je tué, moi? pauvre amant en détresse, soyez digne, et si vous perdez votre maîtresse, conservez un ami. »
Scène 13. Les mêmes, Lindor. Lindor accourant joyeux au marquis.
« Sublime suborneur, je vous rends grâce et suis au comble du bonheur. »
Le marquis tirant son épée d'un ton de commandement.
« À genoux !»
Tous inquiets s'empressent autour du marquis. Lisette est suppliante. Le marquis frappe du plat de son épée les épaules de Lindor, suivant les us de la chevalerie.
« Je m'en vas vous bailler l'accolade. »
Lindor se relève, le marquis l'embrasse.
« Cette maison de fous rend mon cerveau malade !»
Scène 14. Les mêmes, la présidente. La présidente entrant à Courvalin.
« Je vous cherchais, marquis. »«
Vous me cherchiez, vraiment ?»«
Pour vous recommander ce jeune homme charmant. Je prétends, c'est vous dire à quel point je l'estime, que de notre demeure, il devienne l'intime. »«
Compliment à tous deux. »«
Il hurle avec les loups. »
« Voilà pour vous créer séant bien des jaloux. »
On reprend l'air troublant que dès lors je préfère. Votre bras.
Lindor offre son bras à la présidente. Courvalin les regarde s'éloigner.
Je t'adore.
Bonfant amenant en souriant Courvalin à la table de jeu.
Allons, à vous de faire.
Littérature Audio vous a présenté Le Maître à aimer, une comédie de Pierre Weber. D'honneur de voix ayant participé à ce projet collectif par ordre de leur entrée en scène. De Pelfren, Christophe Ménager. Lindor, Florent. Lisette, Domi. Marquis de Courvalin, Gustave. Le Président Bonfant, Jean-François Leblanc. La Présidente, Cocotte. Didascalie, Magali.